L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Norbert Schwab, délégué du KKL Strasbourg et président de la CEJAL, la Société pour l'étude du judaïsme en Alsace-Lorraine, dont le 45e colloque se déroule du 17 au 18 février 2024, ici dans la maison au Centre communautaire de la paix, autour du thème des migrations des juifs d'Alsace-Lorraine, en présence de nombreux intervenants très impliqués dans l'étude et la valorisation du patrimoine juif matériel ou non. Alors cette année, le prix CEJAL du jeune chercheur et le prix Brigitte Kahn seront remis à deux universitaires pour leurs travaux autour de la mémoire, Nicolas Logel et Jeanne Piffaut. Norbert Schwab, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir, c'est pas la première fois.
Non, mais c'est toujours un plaisir de venir ici et de pouvoir parler avec vous.
L'avenir est une porte, le passé en est la clé, disait Victor Hugo. Quelle est votre motivation en vous aujourd'hui à la tête de cette noble dame qu'est la CEJAL, la Société pour l'étude du judaïsme en Alsace-Lorraine? On le disait, je dis noble parce qu'elle profite de l'expertise de spécialistes dans tous les domaines de recherche.
Alors l'ambition de la CEJAL, en fait, la CEJAL est ancienne puisque vous dites une noble dame, 1905, oui, nous sommes une noble dame, une dame un peu âgée mais pas poussiéreuse, une dame très vivante qui se veut vivante et qui a des projets qui s'inscrit pleinement dans le 21e siècle. Alors le premier, la première mission que s'était donnée notre société lorsqu'elle a été créée en 1905, c'était la protection du patrimoine juif. Alors protection du patrimoine juif, pas tellement à ce moment-là les synagogues, pas tellement les cimetières, parce qu'il y avait énormément de communautés vivantes, mais plutôt tout ce qui était documents périphériques, les papiers, les petits documents qui étaient dans les familles, dans les communautés. Ces documents-là, qui n'étaient pas vus à l'époque en 1905 comme précieux, sont extrêmement précieux et on a eu de la chance de pouvoir les collecter, de les pouvoir les conserver, que ce soit au musée alsacien, que ce soit aux archives départementales. Et c'est une véritable ressource, et pour les chercheurs, et pour, le grand public, pour faire découvrir au grand public ce qu'était ou ce qu'est la vie juive. Et c'est notre mission jusqu'à aujourd'hui. Notre mission aujourd'hui, c'est plus tellement la collecte de documents. Ça nous arrive encore de recevoir des dons, des documents qui ensuite peuvent être valorisés. Mais je dirais qu'aujourd'hui, notre mission, c'est au XXIe siècle de faire découvrir ou redécouvrir le judaïsme en Alsace-Lorraine.
Qui a ses racines au Moyen-Âge, qui sont très très anciennes.
Alors, qui est très ancien, dont l'histoire commence au minimum au Moyen-Âge. Peut-être y a-t-il eu d'autres, une présence juive avant, mais malheureusement, elle ne peut pas être certifiée. Mais depuis le Moyen-Âge, depuis le 10e, 11e siècle, eh bien, il y a une présence juive continuée ici, en Alsace et Lorraine, qui s'inscrit dans l'histoire, dans la grande histoire du judaïsme rhénan, qui lui-même s'inscrit dans la grande histoire du judaïsme ashkenaz. Et cette histoire, qui est une histoire juive, bien sûr, d'abord, eh bien, il faut la faire connaître, et le constat est que malheureusement, elle est peu connue. Elle est peu connue et dans la communauté juive, où l'histoire juive est mal traitée, ou mal enseignée, ou peu enseignée, disons. Elle est surtout très méconnue dans le grand public qui nous entoure. Et je dis toujours, l'histoire des Juifs d'Alsace-Lorraine, ce n'est pas seulement une histoire juive, c'est un morceau intégral de l'histoire des Alsaciens et des Lorrains. On ne peut pas comprendre l'histoire de l'Alsace-Lorraine si on exclut, si on gomme l'apport qu'a pu être ceux de la communauté juive. Alors un apport qui a été parfois valorisé, un apport qui a été parfois dénié, des relations qui ont été parfois positives, des relations qui ont été parfois tendues, mais tout ça fait partie de la mémoire et de l'histoire de l'Alsace-Lorraine et à laquelle nous voulons absolument contribuer.
Les noms, les patronymes aujourd'hui des juifs d'Alsace, Schwab par exemple, que ce soit Wolf, Roth, en fait ce sont des prénoms qui sont portés par nombre de familles en Alsace. Ça c'est déjà le signe qu'effectivement les racines sont communes.
Alors c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a eu des passages entre les juifs et il y en a un certain nombre d'entre eux qui se sont convertis au fil de l'histoire. Il y a les patronymes renvoient aussi à des métiers, à des origines communes. L'Alsace est une grande terre, c'est le thème aussi de notre colloque, est une grande terre de migration. Elle a été peuplée, repeuplée, dépeuplée. Et les juifs qui vivent en Alsace, alors il y a bien sûr, il y a une présence continue, même aux pires heures des massacres, il y a toujours eu une permanence juive. Les juifs se sont maintenus dans la région. Je pense notamment autour au XIVe siècle, au moment des massacres de 1349, où la plupart des communautés urbaines sont décimées. C'est étonnant de voir que quelques décennies plus tard, il y a de nouveau des Juifs en Alsace. Et ça continue. Malgré tous les massacres, ils continuent à être présents. Mais l'émigration, l'Alsace a été notamment totalement ravagée pendant la guerre de 30 ans. Et il a fallu la repeupler. Alors, on a des migrants qui viennent de partout depuis des siècles. Et parmi eux, il y a des Juifs qui sont venus s'installer comme d'autres ici en Alsace et qui ont fait souche et qui ont donné... ce qui est aujourd'hui l'Alsace et sa culture.
La Cégel, vous le disiez, a pour but de valoriser et de transmettre ce patrimoine, souvent immatériel aussi, cette histoire des Juifs en Alsace. Comment est-ce que vous y prenez ? Alors, il y a un colloque par an, ça on l'entend,
voilà.
C'est important, avec beaucoup d'universitaires qui parlent, là on parle de doctorants également, qui donnent le résultat de leurs travaux, de leurs thèses, de leur mémoire. Mais autrement, comment est-ce que vous adressez au grand public ? Par exemple, ce colloque, il est pour le grand public ?
Alors, ce colloque, il a une double caractéristique. D'abord, la première caractéristique, ce n'est pas seulement un colloque d'universitaires. Les colloques de la Cégel, puis de la Cégel depuis 45 ans, réunissent volontairement et des universitaires et, je dirais, des historiens locaux. Et donc, même si aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a toute une génération de ces historiens locaux qui a disparu, notre but, c'est de faire se rencontrer et la recherche universitaire et les recherches locales, et donc de permettre une rencontre à ce niveau-là. Et il y aura, lors de notre colloque, il y aura à la fois des personnalités qui viennent de France et d'ailleurs pour parler du sujet des migrations. Et puis, on a trouvé également quelques participants locaux qui vont nous parler de leurs recherches sur ce qui passe dans le département. Je pense notamment à M. Gilles Grivel, qui vient des Vosges et qui est le spécialiste de l'histoire des Juifs dans les Vosges. Ce n'est pas un universitaire au sens strict du terme, c'est un enseignant et qui aujourd'hui, au moment de sa retraite, eh bien, il fait un travail extraordinaire sur l'histoire des Juifs dans les Vosges. Donc il y a cette première caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est un colloque qui est ouvert à tous. Et je pense que tout le monde peut venir à un moment ou un autre au colloque pour venir entendre une partie de son histoire. Et je pense que dans l'histoire des migrations, on a essayé de traiter justement les différentes histoires possibles, à la fois des Juifs qui viennent en Alsace et des Juifs qui partent d'Alsace. Et à travers les différentes interventions qu'on a pu trouver, les différents intervenants qu'on a pu trouver, eh bien, chacun peut trouver un morceau de son histoire familiale. Alors, tout ne sera pas traité parce que le sujet est extrêmement vaste, mais ce sera une première introduction à un thème qui est fondamental dans notre identité, à chacun d'entre nous et à tous ceux qui cela peut intéresser.
Cette thématique des migrations des Juifs d'Alsace-Lorraine, aujourd'hui, que doit être abrogée la loi immigration de Gérald Darmanin, il n'y a pas de lien, évidemment.
Aucun. Les thèmes des colloques sont pensés un ou deux ans, même parfois plus à l'avance. C'est un thème qu'on avait envie de traiter depuis longtemps. Et c'est un thème qui est important parce qu'il y avait, il y a, on va dire, une génération, il y avait un peu cette idée que le juif alsacien, c'est un juif local, en récit interne. Ce qui est vrai, chacun, enfin, si je prends mon histoire personnelle, du côté de mon père, je peux remonter jusqu'au XVIIIe siècle, ce sont des Juifs qui vivent en Alsace.
Mais en milieu rural ?
En milieu rural, oui, parce qu'à partir du XVe siècle, il n'y a quasiment plus que des communautés rurales, les communautés urbaines se reconstituant progressivement à partir du XVIIIe siècle. Mais du côté de ma mère, c'est une histoire complètement différente. Une histoire qui me fait de migration. Alors, c'est Mayence, c'est Wiesbaden, mais c'est aussi Prague, c'est aussi la Hongrie. C'est une rencontre. Et puis, si je viens à ma propre génération, j'ai épousé une femme qui vient de Tunisie. Et donc, mes enfants et mes petits-enfants, ils ont des racines qui sont multiples. Je crois que c'est ça qui fait aussi la richesse de chacun d'entre nous. C'est d'être la rencontre de plusieurs histoires des Juifs, de migrations multiples des Juifs qui ont eu lieu à travers les siècles et qui nous ont conduits ici et maintenant. Et qui font partie de notre identité, qui construisent notre identité. Et c'est cela qu'on veut faire découvrir ou redécouvrir à notre public, que ces migrations, c'est un enrichissement pour tous et qu'il faut les intégrer, même si, et ce sera dit aussi, parfois, nous n'avons pas été très accueillants pour ceux qui venaient d'ailleurs.
Il y a d'ailleurs une thématique dans le colloque sur les Juifs séfarades et leur accueil dans les années 60. Et évidemment, vous avez raison, ça ne s'est pas toujours bien passé.
Ça ne s'est pas toujours bien passé, il faut également le dire. Et il faut essayer de comprendre pourquoi, c'est notre rôle.
La peur de l'inconnu, comme dans toutes les histoires.
La peur de l'inconnu, l'intégration, la peur de devoir remettre en cause l'intégration. Il y a des tas d'éléments qui peuvent expliquer ce rejet de l'autre qui, à un certain moment, était dramatique.
Alors, on va revenir à ce colloque. Le prix Cégal du jeune chercheur est remis à Nicolas Laugel. On l'avait reçu ici déjà. Il est doctorant en histoire pour ses travaux consacrés à la communauté juive de Haguenau. Je disais, nous l'avait reçu pour le mur des noms qui doit avoir le jour au Jardin Mémoriel à Strasbourg début 2025. Beaucoup de recherches. Alors, pourquoi vous avez choisi, vous, précisément, de remettre le prix Cégal à Nicolas Laugel?
Alors, d'abord, pourquoi un prix Cégal du jeune chercheur?
Merci.
C'est peut-être le point de départ. Alors, c'est aussi un constat que l'on fait, c'est que la recherche sur le judaïsme en Alsace-Lorraine est une recherche qui est peu importante, peu valorisée. Et donc, il nous apparaît important d'encourager tous les étudiants, alors on s'adresse aux étudiants en master en priorité, tous les étudiants en master qui feraient un tel travail, ben, de leur dire, voilà, vous êtes soutenus, vous êtes entendus, vous êtes écoutés, votre travail a une importance. Et pour nous, c'est très important de tisser un lien avec cette jeune génération, de les encourager à travailler sur des sujets divers et variés qui touchent au judaïsme en Alsace-Lorraine. C'est pour ça qu'on a voulu recréer ce prix, ou créer ce prix, qui pour nous est un gage d'avenir.
Et il s'accompagne de quoi ce prix alors?
Alors il s'accompagne, ce prix s'accompagne d'une aide en numéraire, d'une remise, d'une mise en valeur des travaux qui ont été réalisés, d'une publication de ces travaux. Il s'agit vraiment de mettre en avant leurs travaux. Et donc cette année, et c'est la première année qu'on va remettre ce prix, j'espère qu'on aura l'occasion de prendre de nombreuses années de remettre ce genre de prix à des étudiants qui font des travaux. Il y en a, on découvre... À l'occasion de cette remise de prix, on découvre des étudiants auxquels on ne pensait absolument pas, qui font des travaux très intéressants. Et donc, cette année, on en a identifié deux. Alors, Nicolas Laugel, c'était, entre guillemets, facile, parce qu'il a travaillé, comme on l'a dit, sur la communauté de Haguenau. Il a déjà publié, il est déjà venu à notre colloque, il a participé à un colloque à Haguenau sur l'histoire des Juifs d'Haguenau. Donc, c'était quelqu'un qui était, comment dirais-je, déjà dans la lumière. Et donc, il nous apparaît tout à fait normal pour ce jeune étudiant, ce jeune doctorant, qui continue ses travaux justement sur l'histoire des Juifs de Haguenau d'une façon beaucoup plus large, eh bien de lui marquer notre reconnaissance, notre soutien, et de lui dire, ben voilà, c'est très bien, on voudrait que tu continues dans cette voie-là, ce qu'il fait d'ailleurs, puisqu'il fait partie aussi de notre association.
Ah, il est impliqué dans votre association.
Il est impliqué, membre de notre association, et il travaille avec d'autres associations également, mais il est impliqué dans notre association et on en est très heureux.
Il est biberonné à l'histoire et à cette passion de l'histoire, au-delà juste de ses études.
Et tout à fait. Donc, c'est quelqu'un qui s'engage pleinement. Alors, la deuxième personne, alors là, nous ne la connaissions absolument pas. Jeanne Piffaut, Madame Jeanne Piffaut, était une grande inconnue, alors une totale inconnue pour nous. Alors, on a fait ce qu'on fait dans ces moments-là, on a fait un appel à candidature, on s'est adressé aux professeurs d'université à Strasbourg et dans la région, en disant, voilà, si vous avez des étudiants qui travaillent, dites-nous. Et puis, je reçois un jour un courrier du professeur Ducœur qui me signale le travail de l'une de ses étudiantes, Madame Jeanne Piffaut, alors sur un sujet qui est extraordinaire, qui est passionnant, sur celui de l'intégration, comment les Juifs arrivés d'Afrique du Nord entre 1962 et 1967 se sont intégrés, se sont adaptés à un nouvel environnement, notamment d'un point de vue des pratiques religieuses. Je veux dire, ça tombe pile poil avec notre colloque. On a dit oui. On a dit oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Madame Piffaut, c'est pas une historienne professionnelle. Voilà, c'est le genre. Elle a fait des études d'histoire. Je pense que ses origines, elle vient du centre du Massif Central, de la région du centre. Et donc, elle a sûrement une histoire à laquelle on n'a encore pas eu accès, puisque nous n'avons pas pu encore vraiment la rencontrer. Elle aura l'occasion de le dire le 18, lorsqu'on lui remettra son prix. Mais là, Madame Piffaut a fait un travail extraordinaire sur cette période qui est également importante pour nous, de l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord ici en Alsace, de leur installation et intégration dans l'Alsace. Et donc c'est un travail qui mérite d'être valorisé. Et donc voilà deux exemples de travaux que cette année nous allons mettre en valeur et j'espère pouvoir l'année prochaine proposer de nouveaux candidats, trouver de nouveaux candidats et puis leur remettre à nouveau ce prix Cégal du jeune chercheur, prix Brigitte Kahn, puisque...
Deux étudiants avec des parcours différents, qui ne sont pas forcément de confession juive.
Absolument pas. Je crois que ni l'un ni l'autre ne sont de confession juive, ni n'ont de lien direct historique avec Dieu. Quoique dans n'importe quelle famille, dans toute famille, si on creuse un peu, on va trouver l'ancêtre juif qui est là. Mais ce n'est pas une nécessité. Je crois qu'une fois, cette histoire des Juifs d'Alsace, c'est une histoire juive. Oui, mais pas que.
Elle est plus universelle que ça, c'est clair.
Elle est universelle et elle doit être prise en compte par l'ensemble de la population alsacienne. Je veux dire, on a un patrimoine. Je reviens sur le patrimoine. On a un patrimoine aujourd'hui, on parlait de synagogue au début, on a un patrimoine qui aujourd'hui est important, mais un patrimoine qui est menacé. Et ce patrimoine, on veut le faire vivre, ce patrimoine, on veut le faire subsister. Mais ce n'est pas la communauté juive telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle est organisée aujourd'hui, qui peut assurer l'entretien et la surveillance de l'ensemble de ce patrimoine. Prenons juste l'exemple des cimetières qui sont répartis à travers l'Alsace. Sans l'aide des veilleurs de mémoire, la surveillance, la visite, la mise en valeur de ces cimetières ne peut pas se faire. Donc c'est véritablement en se coordonnant les uns les autres, en jouant la symbiose des uns et des autres, qu'on pourra réussir à maintenir ce patrimoine, à le valoriser, à le faire connaître. Et ça, c'est en plein notre mission et c'est dans ce domaine-là qu'on veut agir.
J'ai une dernière question, une dernière question liée aux deux prix que vous allez remettre, parce que j'ai une tendresse toute particulière pour Brigitte Kahn. Pourquoi vous avez appelé ce prix Brigitte Kahn ?
Alors, pourquoi on l'a appelé Brigitte Kahn ? Alors, pour deux raisons. La première, c'est que Brigitte Kahn était quelqu'un qui s'était justement beaucoup investi dans la transmission de la mémoire. Elle a beaucoup agi dans ce cadre-là. Et d'autre part, son mari, M. Michel Kahn, a souhaité... rendre hommage au travail de sa femme à travers ce prix.
Merci. Merci Norbert Schwab. Alors je rappelle, vous êtes délégué du KKL Strasbourg, président de la CEJAL, et vous venez nous parler aujourd'hui de ce 45e colloque qui se déroule du 17 au 18 février. C'est pas terminé, c'était juste un petit rappel en milieu d'interview pour que vous puissiez souffler également un petit peu. On parlait de ces deux jeunes chercheurs. Pour vous aujourd'hui, c'est la jeunesse, les passeurs de mémoire.
Ah, c'est absolument la jeunesse. Lorsque je suis devenu président il y a 2 ans, il y a une idée qui m'a traversé l'esprit, qui me sert de guide. C'est de passer d'une logique de pool à une logique de push. Jusqu'à présent, on faisait de l'histoire, on agissait, mais on agissait, en attendant que les gens viennent vers nous. Et c'est vrai que spontanément, il y a un public qui vient, sauf que, il faut le dire, le public qui vient spontanément, c'est plutôt un public de personnes, retraitées, jeunes retraitées. Voilà le public type. Ce public, il est acquis. Mais c'est pas lui le cœur de notre cible. Aujourd'hui, le cœur de notre cible, c'est les autres publics, et notamment la jeunesse. Et là, on a la chance cette année, par exemple, de commencer un partenariat avec l'UEJF, avec lesquels j'ai déjà fait deux activités, et avec lesquels on veut continuer à faire des activités avec l'UEJF, avec les écoles, avec tous ceux qui sont intéressés, à tous les jeunes. On veut aller vers les jeunes, et pas même les moins jeunes, qui, d'une façon ou d'une autre, s'intéressent à ce patrimoine, veulent le découvrir. Et donc, on leur propose des découvertes, on leur propose des activités pour découvrir ou redécouvrir ce qu'est le patrimoine, la richesse, l'histoire et la richesse de ce judaïsme alsacien, qu'il soit urbain, ça c'est facile, ou qu'il soit rural. Et ça, c'est vrai, les gens n'ont pas spontanément l'idée, l'envie d'aller faire un tour à la campagne pour découvrir des choses qui sont passionnantes et qui permettent de découvrir tout un pan de l'histoire, encore une fois, de l'Alsace et du judaïsme d'Alsace.
Et pourtant, il y a une certaine curiosité, même de la jeunesse, liée à ces synagogues qui ne sont pas toujours ouvertes, pour des raisons, des fois, très, très simples, soit de sécurité, soit de personnel pour les ouvrir ou non, ou d'État, tout simplement, parce qu'elles sont certaines et elles ont besoin d'un réel ravalement. Et ça, c'est une autre difficulté qui est liée au service de la culture ici, au sein du consistoire, de préserver et qu'elles ne finissent pas dans la main de pompiers pour en faire des casernes ou de cinéma.
Il y a toute une série d'entre elles qui ont été vendues, qui ont été transformées en habitations, qui ont été transformées en cinéma, qui ont été transformées en caserne de pompiers, quelques cas comme ça. Il y en a une qui vient d'être, malheureusement, qui vient de disparaître, qui vient d'être détruite, c'est celle de Neuville-la-Saverne, qui va être remplacée par un lotissement, par des habitations. C'est sûr que chaque synagogue qui disparaît, c'est un pan de l'histoire et de la mémoire de l'Alsace qui disparaît. Donc il faut tout faire pour que ces synagogues soient connues, ces synagogues soient défendues, ces synagogues soient mises en valeur. Et c'est aussi un des grands axes de l'activité de la CEJAL.
Alors, vous vouliez aussi me parler aujourd'hui d'un concours Lego. Alors on sort un petit peu,
ça rentre
aussi dans la préservation et de faire découvrir ce patrimoine culturel riche en milieu rural, toutes ces synagogues. via les yeux des enfants, on va dire. Alors, construction Lego, pour moi, c'est plutôt les enfants, peut-être alors, même pas forcément.
C'est les enfants, c'est tout le monde, en
c'est
fait.
C'est la famille.
C'est tout le monde, c'est la famille. C'est un projet, alors, c'est un projet qui a été lancé par Yoav Rossano, donc du département patrimoine de la CIBR, du consistoire. Et donc, c'est un superbe projet qui consiste à construire l'une des synagogues d'Alsace, ou du Bas-Rhin en tout cas, pour les faire connaître. Et donc, avec Yoav, on s'est lancé dans le pari, d'une part, d'avoir un grand nombre de maquettes de synagogues, et puis de profiter de cette occasion pour faire découvrir ou redécouvrir les différents types de synagogues, parce qu'il y a différents types de synagogues en Alsace, entre les synagogues dites cachées du XVIIIe siècle et les synagogues les plus modernes qui ont été construites après la Seconde Guerre mondiale. On a 5-6 grands types de synagogues avec des variétés et des variations extrêmement riches. Et ces synagogues sont très largement méconnues, encore une fois. Et ce concours, c'est une façon de les faire découvrir, encore une fois, ou redécouvrir à tous. Alors, des adultes peuvent s'engager, des jeunes peuvent s'engager. On va essayer d'organiser même un atelier ou deux ateliers pour faire construire ensemble ces synagogues, ces différents modèles de synagogues, les faire découvrir et construire. Et ce sera ensuite, à la fin du mois de mars, l'occasion de rendre compte et de voir ce qu'on a réussi à faire. C'est un premier pas pour découvrir, mettre en valeur ce patrimoine qui est, il faut le dire encore une fois, qui est unique. Je crois qu'il y a, sur l'ensemble du territoire français, il y a à peu près 140 synagogues en état qui datent du 18e, disons, de la fin du 18e au 20e siècle. Début du 20e siècle. Sur ces 140, 80 sont en Alsace. On a les deux tiers des synagogues du 19e, 18e, 19e, ici, en Alsace. Je veux dire, c'est unique. C'est quelque chose qui est totalement unique. Et ça doit être connu, ça doit être mis en valeur. On ne peut pas laisser, comme ça a été malheureusement trop souvent le cas, on ne peut pas laisser ces synagogues dépérir, disparaître. Il faut tout à fait les maintenir, leur donner une visibilité et en faire un élément du patrimoine. Et je dirais même pas du patrimoine, mais un élément de la vie quotidienne des habitants des villes et des villages où ces synagogues existent. Et on passe parfois devant sans se rendre compte qu'on a ici un joyau qui mérite d'être mis en valeur.
Vous mettez la même fougue à parler des universitaires qui défendent ce patrimoine qu'à un concours de Lego. Et pour ça, moi, je trouve ça exceptionnel. On va revenir encore en quelques mots sur ce colloque qui aura lieu donc le samedi 17 février. C'est plutôt l'accueil des participants en soirée, bah forcément Shabbat oblige,
oui.
Avec une introduction du professeur d'histoire d'Alsace, directeur de l'Institut d'histoire de l'Alsace à Strasbourg, Claude Muller, et un dîner.
Et alors, pas un dîner, ce sera c'est un déjeuner. Alors, on a l'habitude de faire un déjeuner de travail entre le matin et l'après-midi du dimanche. C'est le moment où on se rencontre. Alors le samedi soir, oui, on commence tard, et Shabbat oblige, donc à partir de 20h. C'est l'accueil, c'est une présentation générale par le professeur Muller des problématiques des migrations en Alsace, parce qu'encore une fois, les migrations des Juifs en Alsace s'inscrivent dans le cadre des migrations globales des Alsaciens au XVIIIe et au XIXe siècle. Il n'y a pas de spécificité particulière. S'il y a des Juifs qui arrivent en Alsace ou c'est des Juifs qui quittent l'Alsace, c'est comme pour les populations qui arrivent en Alsace ou les populations qui quittent l'Alsace, on est tous dans le même sac. Et puis, le dimanche, on a un certain nombre d'interventions plus, plus pointées sur différents aspects de ces migrations, sur ceux qui sont venus, sur ceux qui ont été accueillis, sur ceux qui sont partis. Et on va essayer de donner un certain nombre d'informations sur ce que ça peut être, ces migrations. Et donc, au milieu de la journée, après la remise du prix, on a un repas de travail, qui est un moment de convivialité, d'échange entre, justement, on a universitaires et non-universitaires. On se retrouve tous, entre guillemets, à égalité devant un bon plat alsacien. Et puis, on parle ensemble, on échange et c'est l'occasion pour les uns et les autres de s'enrichir par cet échange.
Et donc, ça commence à 9h15. Différents intervenants, Joël Lasserre, interprète de conférences, auteur, Frédéric Raphaël, bien évidemment, que tout le monde connaît, Gilles Grivel, vous en parliez tout à l'heure, Alexandra Oniskiuk, alors là, je ne suis pas sûre de la prononciation. Merci de la faculté d'histoire de l'université de Varsovie, Jean-Marc Dreyfus, université de Manchester, et Annie Bloch-Raymond, socio-anthropologue. Et donc, pour assister à toutes ces conférences, donc je le disais, il y en a 3 le matin, 3 l'après-midi. Réservation obligatoire?
Alors, pour les conférences sont ouvertes. Il n'y a aucun problème. On vient comme on veut, quand on veut. C'est comme chez McDonald's, on vient comme on est.
C'est ici, au centre communautaire.
C'est ici, au centre communautaire, salle Hirschler. Il y a de la place, venez, il n'y a aucun problème. La seule obligation, c'est pour des raisons d'organisation. Il faut, si on veut participer à ce repas de travail, il faut s'inscrire pour pouvoir y participer. Il faut régler la somme de 28 euros parce que là aussi, il y a des contingences matérielles auxquelles il faut faire face. Et donc, on est heureux d'accueillir tout le monde et on espère qu'on sera les plus nombreux possibles pour pouvoir échanger et s'enrichir mutuellement, parce que je parlais d'universitaires ou de chercheurs locaux, mais la salle joue aussi un rôle dans un colloque. Et très souvent, il y a des interventions extrêmement intéressantes, des gens qui sont là, qui disent « oui, mais moi, j'ai vécu ça ». Et ça enrichit les auditeurs, et ça enrichit aussi le conférencier, qui dit « bah tiens, voilà un petit point que je pourrais rajouter dans ma recherche, que je pourrais, vers lequel je peux m'orienter ». C'est ça aussi un colloque. Et c'est un moment extrêmement important dans la vie de notre association. Pas pour rien que ça fait 45 ans que ce colloque existe. Et je pense que c'est aussi un moment très important pour tous ceux qui viennent y assister, parce que ça leur permet de découvrir, alors d'abord des choses qui les concernent peut-être directement. Je suis sûr qu'on a essayé de balayer les différents types de migrations qui ont eu lieu en Alsace, de ceux qui sont venus, de ceux qui sont partis, mais aussi de découvrir ce qui a été le destin d'autres qui sont venus ou qui sont partis. Alors, on peut être concerné familialement, on peut être concerné par des amis, on peut être concerné simplement par la curiosité, mais c'est un sujet qui est d'une grande richesse et auquel j'aimerais inviter tout le monde à venir et y participer.
Donc, ça se passe le 17 et 18 février 2024. La thématique retenue, l'émigration des Juifs d'Alsace-Lorraine. Ça se passe ici au Centre communautaire de la paix. C'est organisé par la CEJAL, dont vous êtes le président, Norbert Schwab. Merci beaucoup.
Merci Valérie de nous avoir accueillis.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.